Racontez-nous votre Montpellier.
On se trouve ici à Montpellier.
Quels sont les lieux, y compris hors de l'Écusson, qui ne figurent pas sur les cartes postales, que vous aimez particulièrement et auxquels vous êtes attaché?
Ce qui reste aujourd'hui pour moi, qui suis montpelliéraine, c'est Antigone.
Racontez-nous votre Montpellier.
Et vous l'avez compris, effectivement, mon quartier de naissance, c'est Serros.
Donc vous êtes une montpelliéraine, une pure jus.
Ben Montpellier, pour moi, c'est une histoire qui m'a jamais quitté.
Une émission proposée par Alain Doudiès pour partir à la rencontre de Montpellier et des Montpelliérains.
Ce que nous allons faire, c'est une immense aventure.
Ces brefs propos de Georges Frêche annoncent un clin d'œil par avance mon invité que je vais présenter dans quelques secondes. Amis auditrices et amis auditeurs, bonjour, heureux de vous retrouver. Revoilà donc l'émission « Racontez-nous votre Montpellier », lancée il y a un an pour décrire les liens de toutes les couleurs noués entre les habitants de la ville, entre les habitants et la ville, dans l'action et les sentiments, dans les contributions diverses à la vie de Montpellier et dans les regards portés sur elle. Après les 39 invités de la saison 1, le premier invité de la saison 2 est le maire de Montpellier, président de Montpellier Méditerranée Métropole, Michael Delafosse, dont le parcours n'est pas étranger au rôle que Georges Frêche a joué. Merci d'avoir accepté notre invitation. Illico, à peine était-elle émise. Nous allons donc reprendre le fil des conversations. Racontez-nous votre Montpellier. Vous n'êtes pas un inconnu, mais rappelons quelques points de repère de votre parcours. Vous avez 46 ans, êtes montpelliérain depuis l'âge de 13 ans. Vous êtes toujours professeur d'histoire-géographie au collège Foncarade, entre Figueroles et La Chamberthe. En effet, vous avez décidé de continuer et enseigner pendant quelques heures. Combien d'heures ?
J'ai même fait ma rentrée devant la 4e 4 ce matin à 8h.
Ça voilà, s'est bien passé ?
Formidable. Je sens que ça va très bien se passer cette
année. Combien d'heures vous consacrez-vous ?
Je fais une classe 3 heures en histoire, puis j'ai une heure en aide aux devoirs.
Donc, vous gardez ainsi un pied dans l'univers de l'éducation, une des principales composantes de votre identité. Voilà 30 ans que vous êtes engagé au Parti Socialiste, d'abord dès 16 ans, puis par des responsabilités nationales, je fais cours chez les étudiants à l'UNEF, puis à la tête de la Mutuelle des étudiants. Vous avez ensuite progressivement conquis des postes politiques, conseiller départemental de 2015 à 2020, dans l'équipe d'Hélène Mandeau à la ville de Montpellier comme adjoint au maire, délégué à la culture puis à l'urbanisme de 2008 à 2014. Après un mandat de l'opposition, vous avez été élu maire de Montpellier en juillet 2020, à l'issue de la victoire au deuxième tour de la liste Montpellier Unie Solidaire Écologiste Laïque Innovante, avec 47,2% des voix, face au maire sortant Philippe Sorel, 34,6%, et au chef d'entreprise Moed Altra, 18,1%. Voilà pour ceux qui ne suivaient pas la vie politique montpelliéraine à l'époque. Michael Delafosse, il y a beaucoup de thèmes, beaucoup de sujets à aborder pour que vous racontiez votre Montpellier aux auditeurs. Nous allons donc, c'est exceptionnel, y consacrer deux émissions diffusées lors de deux semaines consécutives, le 13 puis le 20 septembre. Nous aborderons des points particuliers, mais de manière plus générale, je vous propose de commencer en prenant du recul. En juillet, vous êtes entré dans la deuxième partie de votre mandat. Vous ne l'avez pas commencé sans expérience, on l'a vu, mais pendant les 3 ans écoulés, qu'avez-vous appris de la manière de conduire l'action publique? Qu'avez-vous retenu de la façon d'exercer la responsabilité du maire? Quelles leçons personnelles et politiques, pour le coup, tirez-vous de ces 3 ans?
D'abord, être maire, c'est être très exigeant avec soi-même. C'est un immense honneur pour moi d'assumer cette fonction. D'abord parce que j'ai reçu la confiance des électeurs et des électrices, des Montpelliérains et des Montpelliéraines. Et puis, au-delà de ceux qui m'ont soutenu, c'est incarner la ville et donc essayer d'être attentif à tous et de porter haut et fort la voix de Montpellier. Le début de mon mandat a été très difficile, parce que ça a été le Covid. Aujourd'hui,
on l'a un peu oublié.
Peut-être de manière quasi freudienne, on le met sous le tapis, parce que cette période a été tellement éprouvante. Et y compris, imaginez, moi, les gens qui me connaissent savent que j'aime bien le contact, j'adore discuter, échanger. Et là, le début de mon mandat de maire, comme qui assume une part de proximité, on en était privé. Et donc, ça a été assez difficile. Mais moi, j'ai voulu placer mon début de mandat et tout mon mandat sous le rythme de l'action. Et je n'ai pas perdu une seconde pour engager sur tous les sujets de nouvelles impulsions. Et d'ailleurs, j'avais dit, si vous m'accordez votre confiance, c'est un nouveau souffle pour Montpellier. Et donc, sur l'ensemble des sujets, nous avons engagé des impulsions dans les politiques publiques, l'éducation, à la rentrée 2020, des vidéoprojecteurs dans les classes. On a augmenté de 20% la dotation pédagogique par enfant pour que les professeurs payent les cahiers pour protéger le pouvoir d'achat des familles. Ça a été d'emblée le lancement des grands travaux en faveur de la place du vélo dans notre ville, qui était très absente, mais aussi de la ligne 5 du tramway. Et puis, très vite, le début de la mesure gratuité des transports le week-end. Et donc, moi, j'ai souhaité engager, et je pourrais parler d'autres choses, mais beaucoup de sujets, de chantiers. Parce que quand on est élu, c'est pas représenter, c'est faire. Et puis, je vais le dire ici sur les ondes, être maire, c'est aussi d'abord respecter ses promesses, ce que j'essaye de décrire. C'est porter Montpellier au niveau national et européen. Et donc, je sais que parfois, certains ont dit « Mais comment ça? Vous accueillez le président de la République? Donc, vous êtes Macron compatible ?» Enfin, vous savez, les petites polémiques. Non, moi, je veux remettre Montpellier sur la carte. Et donc, je suis allé beaucoup à Paris pour défendre les dossiers. Ça nous a permis d'obtenir de l'argent pour le CHU, de faire avancer le dossier enterré du contournement ouest, d'obtenir des policiers supplémentaires. Et que Montpellier retrouve de sa splendeur. Et puis, et c'est peut-être le troisième point, et c'est peut-être là où vous me cherchez, gentiment, quand on est maire, il y a des choses pour lesquelles on est préparé et d'autres jamais. Quand on est maire et qu'on se retrouve devant un collège où les pompiers sont là parce qu'un enfant a été très violemment percuté, polytraumatisé, et que les gens vous disent, dans leurs larmes, pourquoi rien n'a été fait ?
C'est-à-dire l'interpellation dans ce cas-là de plus violent,
de
plus
de
douloureux.
De colère, de douleur. Voilà. Et là, moi, je ne considère pas ça comme un fait divers et un fait qui nous engage. Quand on est maire et qu'on se retrouve parfois confronté à des décisions difficiles, quand à la Mosson, il y a eu une fusillade et que les habitants, je leur dis, après, on a essayé de faire une réunion pour se parler. Et je leur dis, on va faire tomber la tour d'Assas, on va rénover le quartier, je m'y suis engagé. Et les habitants vous disent, monsieur le maire, on nous l'a promis en 2010, en 2015, en 2020. Là, vous voyez le désenchantement. Alors là, il faut retrousser ses manches, il faut y aller. Et ça, c'est des choses.
Alors, est-ce que c'est le cœur de ce qui a différencié vos responsabilités de premier plan, pour le coup, de celles que vous avez eues
assurément.
Le niveau de responsabilité, l'acuité des questions à traiter.
On est exposé quand on est maire. En tout cas, moi, je ne me mets pas à l'abri de ça. Je n'ai pas peur. Enfin, j'appréhende parfois, mais parfois de la détresse. Quand le jeune Ayman de 13 ans a été tué de manière épouvantable, l'émotion de la famille, aller la visiter. Et ça, c'est aussi dans la fonction de maire. Et en tout cas, pour moi, c'est essentiel parce que notre société, heureusement qu'il y a des radios, heureusement qu'il y a la presse, heureusement qu'il y a les associations, mais il y a aussi les réseaux sociaux. Il y a les réseaux sociaux qui sont souvent les réseaux d'expression de la haine, du mépris, du jugement catégorique. Et il faut être dans l'écoute, il faut être dans l'humanité. Moi, je ne peux pas tout régler, mais il faut prendre de l'attention, essayer d'être bienveillant, du mieux possible. On ne l'est pas toujours. Moi-même, je suis un être humain, donc j'ai mes propres vulnérabilités, mais c'est essentiel. Et donc moi, cette fonction de maire, depuis 3 ans, plein de projets, porter Montpellier au niveau national, mais aussi, elle m'a changé profondément, ouais, parce qu'elle m'a fait vivre des épreuves pour lesquelles on n'est pas forcément préparé ou...
L'homme est interpellé tout autant que l'élu.
Ou notre humanité, elle est questionnée. Ou comment on se comporte. Et ça, il faut... ça joue un rôle. Et j'en parle sur l'antenne de Divergence avec vous parce que je pense qu'il faut aussi l'entendre. Il y a des réalités, il y a des épreuves. Et la fonction d'élu, elle commande d'être aux côtés aussi de ces épreuves. Alors des fois, on se dit, est-ce qu'on ne l'est pas un peu trop? Est-ce qu'on ne l'est pas assez? Est-ce qu'on est là? Vous voyez, des fois, je reçois un texto, il y a un incendie dans la ville. Mais le plus possible, j'essaye de me rendre
comme
sur place.
Comme dernièrement à la Paillade.
Et à la Mausson. Je reviens de vacances, j'ai pris un peu de vacances, et d'un seul coup, à 6 heures, on vient taper chez moi. Alors, je me dis, oulala, qu'est-ce qui se passe? Et on me dit, il y a le feu à la Mausson. Hop, on a foncé et j'ai pu voir les pompiers admirables protégés. Mais l'angoisse qui a été la mienne était de vivre ce qu'ont vécu d'autres maires avec des décès. Nous n'en avons pas eu, fort heureusement, et d'essayer d'apporter, d'organiser la solidarité. Et ce jour-là, vous prenez aussi une leçon d'humanité. Parce qu'il y a le feu, les pompiers font leur travail, nous faisons notre travail pour organiser le relogement. Et là, d'un seul coup, il y a tout le monde qui amène du café aux victimes, aux pompiers. Quand les gens étaient très fatigués, très désœuvrés, le général Flores est entré dans la salle et je l'ai présenté et tout le monde l'a applaudi. Et ça aussi, ça rend fort.
Parce oui, que ça donne de la pêche.
Ben oui, parce que ça donne une image... Voilà, bien loin des haines des réseaux sociaux, c'est qu'il y a de l'humanité. Et c'est et même dans les preuves. Voilà.
Alors, vous l'avez évoqué, au début de votre mandat, vous avez dit « Je serai un maire à portée de remontrance ». Alors, les manifestations d'exaspération, les engueulades, vous avez été servi, ça continue, c'est un sujet, sur les difficultés de la circulation et pas seulement, mais quelles sont, dans ces critiques ou dans l'interpellation que le citoyen peut faire à l'adresse de l'élu, ce qui vous paraît normal, justifié, et qu'est-ce qui, à contrario, vous paraît difficilement acceptable, voire inacceptable, dans ce, vous l'avez évoqué, des conditions dans lesquelles le débat public se vit aujourd'hui, c'est compliqué, c'est plus compliqué qu'il y a 20 ans, et donc du coup, avec le recul que je vous propose, après 3 ans d'exercice de ces fonctions, comment vous l'analysez ?
D'abord, moi, j'ai été élu sur un programme, et je fais mon programme. Je l'ai dit très clairement, j'ai mené une campagne électorale pendant 9 mois, j'ai, ici à Divergence et ailleurs, répondu à chacune des questions. J'ai dit que nous ferions la nouvelle ligne de tramway, j'ai dit que nous sortirions le trafic de transit du centre-ville. J'ai indiqué que nous construirions une ville à hauteur d'enfant, j'ai donné ce cap. Et donc, élu, je mets en œuvre la transition écologique et solidaire.
On va en parler.
Et donc, je fais mien cette phrase de Mendès France qui est à l'entrée de notre ville, ouais. « Gouverner, c'est choisir ». Et je fais donc des choix et je les mets en œuvre. Parce que si on ne fait rien, c'est sûr que vous n'avez pas beaucoup de remontrances. Oui, mais à un moment donné...
Les choses restent en plan quand même.
Et voilà. Mais à un moment donné, vous êtes rattrapé par la patrouille. C'est qui la patrouille? C'est nos enfants qui disent « Vous n'avez pas décarboné ». C'est les gens qui vous disent « Mais la pollution n'a pas diminué ». Et donc... Il y a un moment, il faut faire. Alors, c'est sûr qu'en ce moment, à Montpellier, il y a des travaux, il y a des bousculements. Mais quand on a des travaux qui changent les réseaux d'eau pour éviter les fuites, c'est pas très populaire, parce qu'il n'y a pas de coupons de drapeau tricolore.
C'est très coûteux, mais pas spectaculaire.
Non, mais par contre, dans 10 ans, on dira heureusement qu'on a fait ces travaux. Je sais que beaucoup de Montpelliérains et de Montpelliéraines, parfois, sont sortis du tramway et 3 stations plus tard... ont pu le reprendre. Oui, parce que la sécurité du transport était importante et pendant 10 ans, la Cour des comptes nous l'a dit, on n'a pas investi. Donc on a fait. Alors souvent, les gens viennent me dire « Oui, monsieur le maire, pourquoi si il se passe ça ?» Bon, eh bien moi, j'essaye d'expliquer et j'ai cette conviction. C'est quand on explique, même si les gens ne sont pas forcément d'accord, s'ils ne sont pas de mon bord politique ou s'ils n'ont pas la même appréciation, cet échange-là, eh bien, ils permettent de se comprendre.
En tout cas, quand les gens sont de bonne foi.
Oui. Après, vous avez évidemment des gens, mais comme partout, qui sont impolis, qui haussent la voix. Alors parfois, il faut se poser, mais il faut écouter. Voilà. Il faut le faire dans le respect. Et quand on le fait, quand on explique, les gens comprennent les enjeux. Je crois aussi que ça, c'est une responsabilité des médias naturellement, une responsabilité qui est la mienne. Voilà. Et puis je sais aussi qu'il y a beaucoup de compréhension. Puis parfois, il faut manier un petit peu l'humour. Des fois, là, récemment, le nouveau patron du Diagonal, qui remplace Antoine Pérenniguez, s'est adressé au Montpelliérain, au Parc Montcalm, et il a dit « Je veux m'excuser parce que nous allons fermer le Diagonal ». Alors tout le monde a fait « Oh, oui, parce qu'on va faire des travaux ». Alors je lui ai dit « Mais vous êtes parfaitement Montpelliérain, parce que si vous faites des travaux, ça veut dire que vous avez des projets pour améliorer ce cinéma, comme moi je porte des travaux pour améliorer la qualité de vie des Montpelliérains et relever les défis de l'avenir ressources en eau, mobilité décarbonée, espace public, parvis des écoles. Après, oui, on doit changer nos habitudes. C'est vrai que des fois, on n'est pas très bon sur la signalétique. Je prends ma part et souvent, je le dis à mes équipes. Je rappelle, y compris à la mairie, il a fallu que je change beaucoup de choses. Et là, ce qu'on appelle le back-office en occitan, ça n'a pas été simple. Mais progressivement, ça avance. Et là, ça y est, l'aiguillage de la ligne 5 est là. Ça y est, la rue Saint-Louis est ouverte. Ça y est, on voit des pistes cyclables sécurisées, très attendues. Nous sommes passés de 21% de fuite en eau à 14%. Ça veut dire que je n'aurai pas un jour, en tout cas, on espère ne pas avoir à prendre un arrêté de restriction de l'accès en eau, ce qui quand même guette, on a vu ce qui s'est passé dans les Pyrénées-Orientales, ce qui nous guette aussi en raison du réchauffement climatique. Et puis là, on peut l'annoncer, la pollution a été divisée par deux sur la métropole, parce que nous avons fait un certain nombre de choix. L'aide au vélo, 500 euros. La gratuité des transports, étape 1 et 2. La sécurisation des chemins des écoliers. Eh bien, à un moment, ça permet d'avoir des résultats qui protègent notre santé. Donc, voilà. Alors après, c'est dur, je le sais. Et parfois, certains...
Est-ce que, sur ce sujet-là, qui est en gros la manière de gouverner, entre l'impatience des habitants... Et le temps de l'action publique, le temps de la réflexion, le temps de l'étude, le temps de la décision, le temps technique et financier, ces temps-là, que j'ai pu connaître dans mes fonctions antérieures, cette distorsion entre ces deux temps, vous l'avez un peu évoqué, mais ça me semble un aspect essentiel pour donner à comprendre ce que c'est qu'être maire d'une grande ville comme Montpellier. Comment vous le gérez ?
On ne peut pas, aujourd'hui, quand des gens disent « il n'y a qu'à Faucon ». OK. Courage. Non, aujourd'hui, c'est très difficile de faire. Aujourd'hui, la complexité administrative, les injonctions contradictoires, ça rend tout très difficile. J'ai même des fois une phrase, je dis que la France des procédures est en train de tuer la France des projets. C'est-à-dire, tout devient plus difficile. Et c'est vrai que, y compris par rapport à ce qu'a pu connaître mon illustre prédécesseur, Georges Frêche, il fallait 6 ans auparavant pour faire un tramway. Maintenant, il faut quasiment 7 à 8 ans. Et pourtant, on parle dans la société de l'urgence, urgence climatique, urgence sociale, urgence économique. Et donc, on a ce point de tension. Donc moi, ça m'a aussi obligé à faire des réformes administratives pour mieux manager l'administration publique, pour qu'elle soit plus efficace. Mais c'est pas simple.
Oui, parce qu'il y a des contraintes qui vous sont extérieures.
Mais bien sûr, aujourd'hui...
Je ne sais pas, les services de l'État, la réglementation...
Aujourd'hui, il y a un mot dans notre pays. Chaque fois qu'on a un projet, il faut faire des études. Et alors, des fois, je m'énerve. Il ne faut pas croire que je suis calme tout le temps. Et je dis, mais on va faire des études sur les études qui ont étudié l'étude. Non. Donc là, ça s'est complexifié. Je prends un exemple. Il y a des parents, des fois, ils disent, il faut une nouvelle école. Le maire prend la décision de construire l'école. La manifestation a eu lieu, l'enfant était au CP. Eh bien, l'école est inaugurée quand l'enfant rentre en 5e. Non, mais on a ça. Un jour, on obtient avec Carole Delga, grâce à l'appui de Jean Castex, la LGV Montpellier-Perpignan.
Les auditeurs, la ligne à grande vitesse.
Ligne à grande vitesse. Les auditeurs les plus anciens de Divergence entendent parler de ça depuis la fin du XXe siècle. Et alors, on a l'accord, on paye. Et alors je dis, au fait, quand est-ce qu'on ouvre le tronçon Montpellier-Béziers qui va nous permettre de cadencer les TER pour améliorer l'offre de transport en commun sur la partie vers Béziers du département? On me dit 2034 pour faire 40 km de LGV. Et ça, vous voyez, c'est difficile parce qu'il faut pouvoir l'expliquer à nos concitoyens, ce temps. Moi-même, en tant qu'élu, ça m'exaspère parce que je vois les urgences. Donc ça rend parfois plus complexe la gouvernance des sociétés démocratiques. Mais là, quand vous me donnez l'occasion de l'expliquer, beaucoup de nos auditeurs le comprennent. Et c'est pour ça qu'il faut aussi faire des choix. On ne peut pas régler tous les problèmes d'un coup. C'est pour ça qu'il faut établir les priorités, tenir les plans de charge. Et puis, il faut rendre perceptible l'action. L'un des dossiers emblématiques dont je suis assez fier, qui a bien avancé, c'est par exemple, enfin, la rénovation de la Mosson. La tour d'Assas va disparaître dans le paysage entre cette année 2023 et courant 2024. ce qui avait été surnommé le village vertical, qui était devenu un lieu de désespoir, eh bien, les choses bougent, les choses avancent. Mais il a fallu parfois beaucoup taper du poing sur la table pour qu'elles avancent et compter sur mon énergie pour faire avancer les dossiers, comme la cinquième ligne de tramway entre septembre et novembre 2025, comme l'extension de la ligne 1 vers la gare Sud de France, dont je sais que tous les voyageurs
l'attendent
et se disent « Mais comment ce territoire a-t-il pu ouvrir une gare ?» Et pas donner les transports en commun.
Alors, ce que je vous propose de faire, c'est de donner à comprendre aux auditeurs qu'est-ce que c'est que Pilote de la Ville, quelles difficultés il y a à affronter. Il y a la transition écologique et solidaire. Il y a de nombreuses actions, vous en avez évoqué quelques-unes, les déplacements, les déchets, l'énergie, l'eau, l'urbanisme, l'espace public, l'habitat, etc., les volets solidarité. Sur ces questions-là, il y a beaucoup de contraintes de tous ordres qui se sont accumulées sur les déchets, sur la circulation, sur la consommation d'eau, etc., etc. Beaucoup y voient, et c'est mon cas, une difficulté majeure dans l'appréhension, dans la mise en œuvre de cet ensemble de politiques qui freine, je dirais, l'adhésion, la compréhension, l'adhésion et l'appropriation par les habitants, par les citoyens de ces sujets. Dans un livre récemment paru, une interview dans Libération, le sociologue Nicolas Dubout parle d'avenir confisqué. Pour lui, des catégories sociales différentes, les gilets jaunes, les manifestants contre la réforme des retraites et les récents émeutiers, comme on l'appelle, partagent un même sentiment que leur avenir ne leur est plus ouvert, qu'ils sont enfermés dans un présent qui n'est fait que de contraintes. Donc, ma question, vous la voyez venir, dans cette atmosphère d'angoisse climatique, sociale, que la question des prix n'a fait qu'aggraver, comment pouvez-vous faire pour faire apparaître un futur désirable et crédible? Je dis bien à la fois désirable et crédible. Comment approchez-vous cette complexité-là de la conduite des affaires publiques à Montpellier et dans la métropole?
Et peut-être plus globalement dans le monde occidental. Il faut qu'on donne de l'espoir. Et il faut montrer qu'il y a un chemin pour l'espoir. C'est vrai que c'est très inquiétant. Il fait anormalement chaud. Il va anormalement pleuvoir. Les incendies que nous avons vus en Grèce, mais au Canada cet été, pour lesquels les pompiers de l'Hérault se sont engagés, je veux les saluer. Tout ça sont des signaux extrêmement inquiétants. Et une partie de la jeunesse dit parfois, mais moi, je ne vais pas faire d'enfant parce qu'il n'y aura pas de vie possible sur la Terre. Mais c'est très angoissant. Et puis, il y a des gens qui disent, d'autres, vous l'avez pointé cette catégorie, enfin, ces habitants, et il faut les entendre, qui disent, mais attendez, moi, on me demande de mener la transition écologique, mais enfin, moi, ma priorité, c'est de remplir mon frigo. C'est quelqu'un qui est retraité avec une petite pension, quelqu'un qui a un travail à temps partiel. C'est une femme seule avec enfant. Et cette réalité, elle est là. Alors, moi, je le dis, oui, il faut avoir le pessimisme de l'intelligence. Crise climatique, hausse des inégalités sociales, c'est un fait. Et nous devons agir avec l'optimisme de la volonté, pour reprendre la formule. Et donc, Montpellier, la métropole de Montpellier, ça doit être un des territoires qui montre qu'il y a des chemins de possible. Et c'est ce que nous faisons. Le 21 décembre à 19h, nous serons la plus grande métropole d'Europe, avant c'était Tallinn en Estonie, à appliquer la gratuité des transports. À 2 € le litre d'essence, on se déplace librement en transport en commun. Quand on se déplace, on n'émet plus de CO2, donc on contribue à prendre soin de notre planète. Et moi, je sais une chose, c'est que plein de gens diront « il faut faire comme à Montpellier ». Moi, je vois les jeunes, quand on leur parle de la gratuité des transports, ils disent « c'est formidable ». D'ailleurs, ils me disent « monsieur le maire, on ne pourrait pas aller plus vite ». Alors, je leur dis « attendez, il faut que je regarde les finances, parce que c'est important. Là, tous les voyants sont au vert, donc on peut y aller ». Quand nous mettons en place le tarif d'éco-responsabilité de l'eau, où les gens les plus modestes vont avoir un chèque eau pour garantir les 15 premiers mètres cubes gratuits, nous sommes solidaires. Et quand on va faire payer plus ceux qui consomment énormément d'eau sans faire attention, c'est-à-dire ceux qui nettoient au jet leur voiture, qui changent 3 fois l'eau de leur piscine, j'exagère peut-être un peu, mais une fois alors qu'on pourrait ne pas le faire, eh bien eux, ils paieront plus. Voilà, ça, c'est des mesures. Quand on porte une politique très volontariste sur la production d'énergie, j'aurai l'occasion d'en parler tout 2024,
panneaux photovoltaïques, rénovation de l'habitat, construction d'un réseau de chaleur. On sort Montpellier de la dépendance aux énergies fossiles, que ce soit le gaz russe, qui est une énergie fossile et en plus une arme de guerre qui finance la guerre. Donc nous donnons ces chemins. Donc c'est ce cap-là qu'il nous faut tenir. Quand nous organisons la collecte des biodéchets, quand on incite les gens à plus trier, on prend soin de la planète. Et alors on fait quelque chose. Je suis sûr que nos auditeurs et auditrices, ils partagent ça. Souvent le dimanche, on se retrouve dans les repas de famille avec les enfants. Et ils n'arrêtent pas de parler de ce sujet. Parce qu'ils nous demandent.
Vous le vivez chez vous avec vos fils.
Avec mes élèves, avec mes garçons, avec les jeunes avec qui je. C'est toujours plaisir de discuter. Quand nous allons, là, au mois de novembre, mettre des arbres sur la Comédie, certains me disent, monsieur le maire, qu'est-ce que ça de mettre des arbres sur la Comédie? Ben oui, mais on va mettre des arbres dans le cœur de Montpellier. Parce qu'on va en planter 50 000. Parce que plus on aura d'arbres dans la ville, plus on rafraîchira la ville. Plus les arbres ont une valeur à la fois sociale, environnementale. Donc, on va de l'avant. Et je pense qu'il faut engager... Enfin, j'en parle là de manière très convaincue, et c'est normal, ce chemin-là. Quand nous permettons de sécuriser les abords des écoles et que les enfants, ils apprennent à retourner à l'école à pied et pas en voiture, que les habitudes, elles changent, c'est bon pour leur santé, c'est bon pour leur imaginaire. Et voyez, pour répondre finalement à votre question... Moi, je ne suis pas pour l'écologie punitive. On sait que la transition, il faut la conduire. La gratuité des transports, c'est une mesure d'écologie positive. Aider tout le monde à acheter un vélo avec la prime à 500 euros, c'est une mesure positive. Aider les propriétaires à 2600 euros pour rénover leur logement, c'est une mesure à énergie positive, à énergie et écologie positive. Le tarif d'éco-responsabilité de l'eau, pareil. Et donc, on porte ça. Et moi, je le dis, et je m'adresse en particulier à la jeunesse. Voilà, nous, on essaye de défricher un chemin qui peut être inspirant, mais il ne faut pas qu'on se résigne. Voilà, nous sommes face au défi du siècle. Ce défi-là, il est devant nous et donc il faut s'en emparer. Ça passe par des politiques publiques, ça passe par les comportements individuels, ça part par la mobilisation de tous et ça part par une exigence. L'écologie, oui, toujours avec le social et pas de social sans écologie.
Voilà, alors il nous reste un peu de temps. Je vous propose de les consacrer à ce que vous avez déjà évoqué, que j'avais prévu, c'est la question de la jeunesse. Alors, il y a les plus jeunes des jeunes, c'est les enfants, avec cet ensemble de politiques que vous avez indiqué, la vie, la hauteur d'enfants, pour faire lien, y compris avec l'actualité du moment, la rentrée scolaire. Quelques mots là-dessus, avant qu'on mette fin à cette première émission.
D'abord, effectivement, à Montpellier, on réoriente tout pour essayer de penser la vie, la hauteur d'enfants. Car si un enfant est bien dans la ville, ben au fond, une personne qui a 90 ans sera bien. Une personne en situation de handicap sera bien. Si on met des trottoirs larges, si on végétalise, si devant les écoles, il y a des bancs sur lesquels peuvent s'asseoir nos anciens et les enfants jouer, on fait du bien. Regardez ce que nous avons fait devant l'école Jeanne d'Arc et Chaptal aux Arceaux, devant l'école James Joyce à la Mausson. De nouvelles aires de jeu sont en train de se déployer. Nous rachetons le plus possible de parcs, de lieux pour créer des respirations. Ça, c'est essentiel. Parce que si on a une politique pour les enfants, c'est une politique pour tous. Et puis, le professeur que je suis, qui est maire, nous faisons beaucoup pour les écoles, jamais assez.
Alors, à grand trait, parce qu'on
a... À grand trait. Végétalisation voilà. Des cours. En 2026, on sera à 100% de bio et de cours. Nous avons mis en place un plan de soutien scolaire public, laïque, gratuit, auquel je suis très attaché. Parce que moi, j'ai vu beaucoup de femmes seules avec enfants qui me disaient « Mais moi, je paye 50 euros dans les sociétés privées, etc. » Mais ça, c'est le rôle du public. Voilà, parce que quand on est une femme seule, on a la charge mentale et on est très attaché à la réussite des enfants. Et souvent, les pères, ils ont disparu. Il faut courir après pour avoir la pension. Enfin, c'est des choses que nous, on doit savoir entendre. Et là, on protège les enfants. Ce sont des aspects essentiels. Quand on végétalise une cour, les professeurs en font un projet pédagogique. Et donc, ils sont là, les enfants, les petits Montpelliérains sont les acteurs de la transformation de Montpellier.
Écoutez, voilà, on voit bien qu'il y aurait d'autres choses à dire sur ces sujets. On va y revenir, puisque je l'ai indiqué, on va se retrouver pour une deuxième émission qui sera diffusée la semaine suivante celle-ci. vous avez des choses à dire, j'ai des questions à vous poser. Donc rendez-vous aux auditeurs, merci à vous d'ores et déjà, et rendez-vous aux auditeurs la semaine prochaine. Merci Michael.
Merci pour cette première salve de questions.
Racontez-nous votre Montpellier.
On se trouve ici à Montpellier.
Quels sont les lieux, y compris hors de l'Écusson, qui ne figurent pas sur les cartes postales, que vous aimez particulièrement et auxquels vous êtes attaché?
Ce qui reste aujourd'hui pour moi, qui suis Montpellier-Rennes, c'est Antigone.
Racontez-nous votre Montpellier.
Et vous l'avez compris, effectivement, mon quartier de naissance, c'est Sarov.
Donc vous êtes une Montpelliéraine pur jus.
Bah Montpellier, pour moi, c'est une histoire qui m'a jamais quitté.
Une émission proposée par Alain Dudiez pour partir à la rencontre de Montpellier et des Montpelliérains.
Ce que nous allons faire, c'est une immense aventure. Une immense aventure.